Cette édition avait un but depuis le début, qui était de créer un girl group. A2K, c'est trouver un talent américain pour créer un girl group à travers les méthodes de la K-pop.
Wow,
c'est mieux que ce que je voulais et mieux que ce dont j'avais besoin. Maintenant, on peut le faire. Je pense qu'on va avoir un grand groupe avec ces kids.
Salut à tous. Bonjour Hélène.
Hello.
Comment tu vas?
Écoute, ça va très bien. Aujourd'hui, il fait moins chaud que ces deux dernières semaines pour les enregistrements, donc je t'avoue que je suis royale. Et toi, comment ça va?
Écoute, c'est pareil, je suis très fatigué, mais ça va. Et effectivement, il y a un peu de fraîcheur là où je suis, même si enregistrer un podcast signifie arrêter le ventilateur. Et je pense que d'ici quelques minutes, je vais fondre.
C'est pas grave, c'est l'été, c'est un peu le revers de la médaille à enregistrer en plein été. Écoute, on fait ça pour la passion, n'est-ce pas?
La passion.
La passion.
Bienvenue dans ce tout premier épisode de America to K-Pop, l'émission hebdomadaire sur le survival America to Korea, organisée par l'agence coréenne JYP Entertainment et le label américain Republic Records. Ouais!
Wouhou!
Nous parlerons aujourd'hui du premier épisode sorti sur la chaîne YouTube de JYP Entertainment qui pose des bases de l'émission. Ma chère Hélène, je te propose d'abord que l'on explique rapidement ce qu'est un survival à la coréenne, sans pour autant rentrer dans les détails, puisque l'histoire de ce genre d'émission constituera sûrement l'un des épisodes principaux du podcast. Du coup, je te pose la question, qu'est-ce qu'un survival?
Eh bien, survival à la coréenne, c'est finalement pas très différent d'un survival à la française, tel qu'on a pu le connaître à notre époque avec les Star Academy et autres The Voice. Concrètement, le principe est simple. Des participants et participantes s'affrontent, même si en Corée, c'est principalement des participants d'un seul genre les uns avec les autres. C'est pas mixte. Et le principe est simple. Il s'agit de les faire s'affronter au cours de diverses épreuves créatives et artistiques pour qu'il en reste le moins possible. Et avec ces grands et grandes élus, l'idée est de les faire débuter. Remporter un survival pour des Coréens et des Coréennes, c'est atteindre la dernière étape à la fin de laquelle la victoire signifie en règle générale le début du groupe, c'est-à-dire le moment auquel le groupe va se former officiellement et pouvoir créer en tant qu'artiste officiellement labellisé.
En fait, les survivants, les vainqueurs des émissions, parce qu'il y a souvent plusieurs vainqueurs, c'est pas un The Voice où il y a un vainqueur à la fin.
Tout à fait.
Les vainqueurs constituent un groupe.
Exactement, c'est un peu comme ça se passait au début des années 2000 pour une émission aujourd'hui disparue qui s'appelait Popstar.
C'est vrai.
Où le but était effectivement de faire entrer en concurrence différentes personnes, donc là pour le coup c'était mixte, dans l'idée de donner un groupe qui débute ensuite sous ce nom. Bon, Popstar, ça a pas trop donné grand-chose à l'époque, mais pour le coup, en Corée, ça marche extrêmement bien, puisque énormément de groupes, depuis, disons, le milieu des années 2000, je crois que le premier survival remonte à 2005, la plupart des groupes se forment ainsi aujourd'hui. Alors en Corée, c'est surtout monogenre. Il est très rare, je crois pas que ce soit arrivé, mais il faudra vérifier, que des groupes mixtes aient débuté par des survivals. Et là, en l'occurrence, grande première, le but est du coup de créer un autre type de survival à la coréenne, mais en américaine.
Absolument. Et justement, A2K, donc l'abréviation de America to Korea, c'est un survival à la sauce JYP. Vous savez, l'agence coréenne, comme on a pu voir par le passé, l'émission 16 a contribué à former Twice, l'émission Stray Kids a fait débuter Stray Kids, et Niji Project, plus récemment, a lancé le groupe Nijiu, qui d'ailleurs, je trouve, ressemble pas mal à A2K pour l'instant.
Tout à fait. C'est des survivals que j'ai suivis, on va dire, de manière rétrospective, notamment celui de Stray Kids. Une fois que le groupe a été formé, tu as la possibilité, par des canaux plus ou moins détournés, de regarder du coup l'émission, et ce qui n'est évidemment pas du tout pareil que de suivre, là, comme on a décidé de le faire pour cette émission, le survival au fil de l'eau.
A2K a été annoncé pour la première fois en juillet 2022, donc ça fait un an déjà. Les auditions sont depuis terminées, mais forcément, on ne sait pas qui a gagné. Est-ce que JYP, Park Jin-young, donc le CEO de l'agence JYP, du même nom d'ailleurs, donc ce que JYP cherche à faire avec ce projet, il le répète pas mal, tu l'as dit, c'est de créer un super groupe international avec des auditions passées aux États-Unis et du coup de faire évoluer les membres au sein du système coréen. C'est-à-dire qu'on aura on aura sûrement voilà, des Kimberly et des...
Des Janet.
Ouais, des Janet, tout ça, en Corée, au sein de l'agence JYP. Je trouve que c'est un pari assez risqué. Et en même temps, compte tenu des précédents survival qu'avait organisé l'agence, je suis moyennement étonné finalement.
Là, on ne l'a pas précisé, mais le but est de créer un groupe féminin.
D'ailleurs, petite anecdote, lorsque JYP avait publié l'annonce donc l'an dernier, en juillet 2022, il me semble d'ailleurs que la compétition était ouverte aux personnes non-binaires.
Tout à fait.
C'était écrit, hein, il me semblait bien, les pronoms utilisés doivent être « she » ou « they ».
Ouais.
Et de fait, c'est plutôt cool que JYP se soit mis de ce côté-là, c'est vachement sympa. Peut-être d'ailleurs, c'est une initiative plutôt de Republic Records, qui est peut-être plus au fait pour ce genre de choses, mais...
Probablement.
Mais en tout cas, mine de rien, c'est présent, et c'est quand même sympa, très cool de voir ça. Et j'espère qu'on verra au fur et à mesure des contestants non-binaires, ça pourrait être vraiment sympa.
Ça serait une victoire dans l'industrie de la K-pop.
Et maintenant qu'on a fait nos intelligents, Hélène, on va passer en mode apéro, en mode café du commerce, pour commérer sur ce premier épisode, nommé The Start of A2K, qui a été publié en France le 14 juillet 2023. Tout d'abord, rapidement, est-ce que t'as aimé cet épisode? Est-ce que t'as aimé ce que t'as vu?
C'était trop bien! Alors, faut savoir que c'est très très déconcertant. Je sais pas si tous les survival c'est comme ça. J'ai été frappée par une chose. Alors, l'épisode est très court. Enfin, très court.
Ouais, une demi-heure.
Une demi-heure.
Ouais.
Ça va très très vite, donc on voit finalement assez peu d'auditions. Et j'ai trouvé très déconcertant, en conséquence, que l'on voit uniquement les personnes qui restent. Les personnes qui sont recrutées pour poursuivre la suite de l'aventure.
Oui.
En France, en tout cas, on a l'habitude de voir dans les survival des personnes qui ne poursuivent pas l'aventure. Parce qu'il y a toujours un peu de montage, évidemment. Il y a tellement de personnes qui passent qu'on ne peut pas montrer tout le monde. Mais là, en l'occurrence, on ne voit que les personnes qui ont réussi. Et moi, je m'attendais à voir potentiellement des personnes qui ratent.
Moi aussi.
Et là, on voit donc trois auditions. Et les trois personnes qui auditionnent sont les trois personnes qui poursuivent l'aventure.
C'est ça. Alors pour l'instant, on a eu l'audition de Dallas, où il n'y a qu'une seule jeune fille qui d'ailleurs est canadienne, qui a été retenue, et le début de l'audition à Chicago. Parce que vous savez, en fait, ils ont tourné pendant quelques semaines aux États-Unis, où justement, JYP allait dans chaque grande ville, en tout cas sur la côte est, il y en avait plusieurs, la côte ouest, il n'y avait que Los Angeles, il me semble, où justement, voilà, il a tourné un peu pour... voir les auditions. Alors, ils le disent, hein, les jeunes qui passent devant lui ont déjà été présélectionnés.
Tout à fait.
Il accueille pas n'importe qui, le petit Park Jin-young.
Ah ouais, tout à fait. Il a pas le time.
Il se passe plusieurs étapes en Amérique, notamment les phases d'audition et ensuite les phases un peu plus avancées qui vont se passer, il me semble, à Los Angeles, il me semble.
Hein. Exactement. C'est la deuxième étape.
Et ensuite, la finale, la dernière étape, va se passer en Corée, où il va amener les contestants pour justement les faire se battre pour avoir une place dans le groupe final, quoi. Donc ça se passera en Corée.
Il y a une dernière chose au niveau du concept que tu n'as pas expliqué, c'est que les personnes, lorsqu'elles sont auditionnées et qu'elles sont retenues, JYP himself leur passe autour du cou une petite chaîne à laquelle est fixé un pendentif en forme de croix contenant quatre branches, une croix quoi. Et ces quatre branches ont donc des orifices qui sont vides, qui sont destinés à recueillir donc des petites pierres pour chaque épreuve, grande étape, en tout cas réussie par la personne qui entre en concurrence avec les autres. Et le but pour remporter l'émission est de compléter entièrement le pendentif que l'on a autour du cou.
Tu l'as dit, hein, pour l'instant, on a vraiment vu que des personnes qui ont été sélectionnées et à qui JYP a remis le pendentif. En attendant, pardon, plus précisément de l'épisode. Est-ce que t'as eu des coups de cœur ou des moments préférés? Est-ce que t'as déjà des chouchoutes?
Alors des chouchoutes, non, parce que comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on en a eu trois.
Ouais.
Donc on voit passer trois jeunes femmes qui ont donc entre 16 et 17 ans. Camila, Kendall et Lexus, qui sont donc les trois personnes que l'on voit dans la deuxième partie de l'épisode, parce que la première partie de l'épisode consiste majoritairement à expliquer le concept et à faire plein de gros plans sur JYP dans sa décapotable.
On va en parler après, c'est incroyable.
On va en parler après.
Incroyable.
Donc on en voit passer trois. Chacune est retenue, donc chacune a des qualités, d'énormes qualités. J'ai beaucoup aimé la sensibilité de Camila.
Ouais, ah, c'est clair.
C'est la première que l'on voit passer. On la voit uniquement chanter.
Oui, alors elle choisit ça, il me semble, si elle danse ou elle chante, non?
Alors ça, j'ai pas compris.
J'ai pas compris non plus.
Est-ce qu'elles font les deux et qu'on en montre que l'un ou l'autre? Est-ce que, parce que Lexus fait les deux?
Ouais.
Est-ce qu'on voit l'un ou l'autre? Kendall, par exemple, ne fait que danser. Est-ce qu'ils ont montré l'une qui fait l'un, l'une qui fait l'autre et l'une qui fait les deux pour le rythme? On le verra. J'ai pas trop bien compris si elle choisissait ce qu'elle faisait ou si c'était du montage. C'est pas très très clair. Donc pour le coup, Camilla, on la voit chanter. J'ai été très très surprise parce que sa voix change complètement quand elle se met à chanter.
Ouais.
Et j'étais là, waouh, mais elle chante déjà super bien. Et moi, évidemment, comme je suis pas une professionnelle, forcément, quand JYP commence à se dire, ouais, il y a ça, j'étais là, c'est bon.
Laisse-la tranquille,
c'est un petit chat. Et ouais, j'ai beaucoup aimé sa sensibilité. Vraiment, celle qui m'a beaucoup émue, c'est Lexus.
Bah oui.
Donc Lexus, c'est une jeune fille qui a fait de la danse classique pendant 12 ans et qui a décidé d'arrêter récemment pour se consacrer à son rêve qui est donc d'être idole de K-pop. Et on sentait qu'elle avait vraiment... qu'elle avait un peu de mal à se positionner par rapport à ça. Genre, pourquoi t'as arrêté soudainement de danser alors que tu te destinais à une carrière incroyable, que t'as fait de la danse toute ta vie. Et on sentait clairement, et JYP le sent aussi, qu'elle avait du mal à se positionner par rapport à ça et qu'elle pouvait prendre éventuellement comme un échec le fait d'avoir arrêté ça. Et ils discutent tous les deux, je crois que c'est la seule personne de l'épisode avec laquelle il le fait, ils discutent un peu tous les deux, il lui dit « Cette phrase que je trouve très juste, tu peux pas savoir ce que tu veux faire plus tard si t'essayes pas plein de choses en fait.
Ouais. »
Moi j'ai essayé plusieurs choses, j'étais dans un master de géologie, je me faisais chier, et finalement aujourd'hui je dirige l'une des plus grandes agences de K-pop au monde. Tu trouveras à un moment l'opportunité de rentabiliser ces 12 années de danse classique, ne t'inquiète pas. Et effectivement elle le lui prouve, puisqu'elle commence par chanter, et après elle fait une prestation de danse qui est étonnante.
Ah mais elle est, tu sens la précision, la vigueur.
La vigueur surtout.
L'énergie qu'elle a.
Ouais, voilà, c'est quelque chose qui saisit beaucoup. Et l'avantage, c'est qu'on peut comparer, puisque la deuxième personne que l'on voit, c'est Kendall, qui, elle, intervient, donc, dans l'épisode, en tout cas, uniquement pour danser. Elles ont deux styles complètement différents.
Ouais, c'est vrai.
Et donc, moi, forcément, étant danseuse, je voyais un petit peu comment elle procédait. Les deux procèdent de manière extrêmement différente. Kendall est beaucoup dans ses expressions, absolument pas dans sa maîtrise, et d'ailleurs JYP le lui reproche, alors que Lexus, elle, clairement, les mouvements vont du début à la fin, les mouvements sont précis, il y a de l'énergie, il y a des expressions, mais pas tant, et elle m'a beaucoup intéressée, Lexus, parce qu'il y a une volonté, puis il y a vraiment une entièreté dans cette jeune fille que j'ai trouvée très très impressionnante. Et elle est très très émouvante. Après, quand chaque personne sort, elle retrouve un ou une proche, là c'était que des mamans je pense, dans le couloir, et tu sentais qu'elle pensait pas qu'elle allait passer en fait.
Elle a ce côté timide et pas trop sûre d'elle, en tout cas au premier abord.
Du tout.
Elle paraît pas sûre d'elle.
Ouais.
Mais quand elle commence à danser, ça a été vraiment impressionnant quoi.
Bah, elle a 12 ans de danse classique derrière elle et ça se voit. Et d'ailleurs JYP lui dit hein, ces 12 ans d'éducation en danse classique n'ont pas été vaines, tu sais danser.
Bah tu vois, tu dis que t'as pas de coup de cœur, mais au final la petite Lexus, tu l'aimes bien?
Bah j'aime bien, après je sais pas ce qu'elle va devenir, parce que ça a l'air d'être quelqu'un, malgré le fait qu'elle était éduquée au sein d'un système qui est quand même extrêmement contraignant, qui est celui de la danse classique, ça reste quelqu'un qui semble extrêmement sensible, et qui clairement, même si le JYP lui dit « t'es là pour apprendre », part vraiment du sol pour ce qui est du chant. Pas seulement parce qu'elle chante mal, mais parce qu'il lui dit hein, dans l'attitude... Il y a énormément de choses à apprendre. C'est quelqu'un qui chante, de manière très robotique. Elle est très stressée. Est-ce qu'elle est talentueuse? Oui, mais c'est une danseuse classique. Donc, a priori, c'est quelqu'un qui a l'habitude d'être en groupe. Est-ce que quand il va falloir passer des épreuves seule, est-ce qu'elle va endurer la pression? Est-ce qu'elle va endurer la pression de la compétition? Est-ce qu'elle va gérer tout ça?
Ouais.
Parce que certes, elle a fait de la danse classique, mais c'est pas du tout le même système. C'est des personnes issues d'un système américain qu'on va mettre dans un système coréen. Est-ce que quand la compétition va se durcir et qu'elle va être confrontée aux autres personnes, est-ce que sa sensibilité ne va pas la desservir? C'est la question que je me pose.
C'est vrai que je suis en train de me dire, et est-ce que tu sais quelle est l'idole qui avant était justement danseuse classique aussi?
Ah, je sais pas.
Mina.
Mina était danseuse classique?
Mina était danseuse classique.
D'accord.
Et elle a fait des années de ballet aussi.
D'accord.
Et je trouve que les deux, c'est drôle, hein, mais les deux Elles ont un peu les mêmes vibes, même si Mina, forcément, elle a, voilà, elle a plus rien à apprendre. Mais moi, elle me fait penser un peu à Mina Nexus.
C'est pas loin, effectivement. Bon, et puis Mina s'en est sortie, la preuve.
Si elle arrive à surpasser les épreuves, comme tu l'as dit, je pense qu'elle aura une vibe un peu à la Mina, tu vois.
Oui, oui, je pense que c'est ce que JYP a vu en elle. Et il le dit d'ailleurs à l'équipe en hors-champ une fois qu'elle est partie. Ouais. Elle va grandir tellement vite quand elle aura les clés nécessaires pour le faire.
Pour le coup, on va peut-être parler maintenant de JYP. C'est terrible parce que JYP, moi, je...
Il y a un culte de la personnalité autour de ce type, c'est assez impressionnant.
Ouais, mais moi je l'aime trop, je suis désolé. J'ai honte, mais JYP... Il me fait trop marrer.
Ah oui, oui, non, mais il est impressionnant. C'est un personnage, le mec. Hein.
Les plans en décapotable en début de l'émission.
Ah oui. T'avais envie de dire c'est Ken ou est Barbie, quoi. C'est...
Non, mais c'est terrible. En même temps, il a ce côté vachement humain. Où il explique aux filles, moi, je cherche pas des artistes parfaites. Il faut travailler, mais voilà, à ton rythme, prends ton temps, apprécie ce que tu fais, prends du plaisir à faire ce que tu fais. En fait, je pense que ce que j'aime chez lui, c'est que tu vois que c'est un père. Et moi, je vais te dire, son culte de la personnalité qu'il essaie de mettre en place, sur moi, il fonctionne. Voilà, c'est tout. Moi, je l'aime trop, mais c'est terrible. Mais j'aime bien ce mec. Vraiment, j'aime bien ce mec.
Je suis un petit peu plus dubitatif que toi.
Mais t'as raison. Mais moi, je suis bien heureux que tu le sois. Mais je l'aime bien. Il paraît sympa. Il paraît. Même si, encore une fois, non mais voilà, encore une fois, c'est un millionnaire et un chef d'entreprise et il est dangereux. Voilà.
Mais tu aimes les hommes dangereux.
Oh la vache. Ah, mais c'est absolument ça, tu vois. Moi, ce que j'aime bien chez lui, sincèrement, c'est qu'il pourrait être une grosse merde.
Ah oui, et il l'est probablement.
Peut-être, mais ce que je veux dire, c'est à l'écran, tu vois. Avec les jeunes, tout ça, il pourrait être exécrable. Et à chaque fois, même quand les jeunes n'y arrivent pas en face de lui, ou ne sont pas top... Il cherche toujours à les élever. Et dans Niji Project, dans Loud, c'était ça à chaque fois. Quand il éliminait des jeunes, il leur disait bien, ta carrière, elle est pas finie, en fait. C'est pas parce que moi, je te dis non maintenant, que tu vois rien. Et tu vois, il y a ce côté rassurant qui fonctionne sur moi, voilà, je le dis.
Eh ben moi, pas du tout.
Eh ben tant mieux, mais vraiment, je pense tant mieux.
Pas du tout, parce que je pense que qu'il a cette attitude, déjà parce qu'il a essuyé des plâtres, parce que c'est pas son premier survival qu'il fait, et il a eu vraiment des reproches par rapport à la dureté de ses réactions, notamment le show de Stray Kids.
C'est vrai ?
Il y a des passages vraiment, vraiment durs.
Ah merde, d'accord. Parce que même dans 16, il n'était pas si méchant que ça. Hein.
Bah après, je pense que c'est une perception et c'est relatif à un contexte en particulier, à la manière dont c'est monté aussi, parce que les images, ouais, selon comment elles sont montées, disent beaucoup de choses. Je pense qu'il faut se replacer régulièrement dans la perspective où il est face à des personnes de genre féminin, déjà. Et on sait qu'il a une préférence pour les groupes de genre féminin, ça se voit très clairement avec la manière dont il fait la promotion de Twice et de NMX notamment, ce qui est très bien, mais ça se voit. Et là, il a affaire à des personnes... dans un système américain.
Oui, donc tu penses qu'il se contrôle ?
Pas qu'il se contrôle, mais qu'il essaye de montrer une bonne image, parce que son but, c'est pas de repartir avec personne. Je pense qu'avec les critères coréens, il aurait pas ramené 3 personnes, par exemple, dans ce premier épisode. Il aurait pas poussé 3 personnes à continuer l'aventure. Le but, c'est qu'il se retrouve avec un groupe à la fin, quand même. C'est médiatisé, il y a de la thune, etc. Il y a de la pub, machin. Il peut pas se permettre de se planter. Voilà, je pense que... Certes, la manière dont il se comporte avec les 3 personnes qu'on a vu passer la première épreuve était touchante. Moi, en tout cas, son rapport avec Lexus m'a beaucoup touché, m'a beaucoup parlé. Mais à voir avec les épisodes suivants si ça se modifie, notamment au moment où la compétition va se durcir et où ça va devenir vraiment dur pour les jeunes filles. Tu sens que voilà, il faut replacer les choses dans leur contexte et qu'il est face à des Américaines. Et qu'elles ne sont pas fatalement pas traitées de la même manière que les Coréennes.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'avais pas forcément pensé à ça. Mais tu vois, même dans Niji Project, des fois il était un peu dur, mais il essayait toujours d'être gentil un maximum. Même si des fois il disait des trucs qui n'étaient pas cool. Hein. Mais tu vois, il voyait toujours un peu le verre à moitié plein, tu vois. Mais je vois ce que tu veux dire, et en vrai, je suis content que ça ne marche pas sur toi, son espèce de culte de la personnalité qu'il met en place, parce que du coup, moi, je suis beaucoup plus faible que toi, ça marche. J'ai presque de la sympathie pour lui, tu vois, alors que...
Ah non, moi, pas du tout.
Je devrais pas. Non mais très bien, franchement, c'est tant mieux qu'on ait, on ait deux points de vue différents là-dessus.
On va se fight.
Non mais tant mieux, vraiment, ça va être un running gag au fur et à mesure des semaines. Est-ce que JYP, on tarte ou pas?
Est-ce qu'il va prendre sa tarte à la crème dans la figure à cet épisode ou pas?
Eh ben, tu sais quoi, pour ce premier épisode, est-ce qu'on lui donne une tarte à la crème ou pas?
Honnêtement, il a été cool.
Il a été
pour
cool.
Pour ce premier épisode, très clairement, il a été cool.
Voilà. Pour ce premier épisode, pas de tarte à la crème pour le petit Jinwoo. Mm. Ok. Maintenant, il y a un autre truc que j'ai bien aimé chez lui. Et en même temps, c'est critiquable. Mais c'est le fait qu'il explique qu'il est autant fan de Soul fait par des Américains noirs.
Mm-hmm.
Et c'est cool dans un univers si raciste comme la K-pop, de voir un chef d'entreprise dire « Les vrais kings, ils sont là, en fait. »
Ouais, c'est vrai. C'est l'une des premières choses qu'il dit au début de l'épisode, d'ailleurs.
Ouais, et il dit, en fait, c'est ça qui a fait nourrir son amour pour la musique et pour le chant. C'est vraiment des chanteurs et des chanteuses noires américaines, de soul notamment. Et en fait, ça peut être critiquable pour tout ce qui est, appropriation culturelle et tout ça, on est d'accord.
Oui, parce que la Corée est très très douée sur ce sport-là.
On fera un épisode dessus, je pense.
Oui.
Mais en attendant, là, il s'approprie pas vraiment. Il dit que c'est ce qu'il a...
Inspiré.
Inspiré. Et en l'occurrence... C'est cool et important qu'ils disent ça, je pense.
Oui.
Dans un monde aussi raciste que la K-pop.
Mmh, tout à fait. C'est d'ailleurs assez étonnant. Mais il y a plein de petites choses qui sont très étonnantes. Alors après, encore une fois, avec le recul, avoir commencé à monter, avoir commencé à disposer, avoir sur le long terme surtout. Mais c'est très rafraîchissant de voir cette introduction comme ça, même si on sent que clairement... C'est une personne qui est... Enfin, ça se voit, en fait, avec les plans qui sont utilisés quand il monte l'escalier, là, quand il sort de je sais pas quoi. Je sais pas si c'est une bouche de métro ou un parking privé ou je sais pas trop. Tu sais, il remonte et, en fait, là, sa montée des escaliers avec les explications, les machins, le montage et tout, ça met genre 30 ans.
Non, mais c'est incroyable.
Et quand il monte à la fin de son escalier, t'as un plan en contre-plongée où il regarde autour de lui, il y a les grands buildings. Et ça fait vraiment, tu sais, la petite nana dans les films américains, les sitcoms et tout, qui... vient d'arriver dans un nouveau monde qui est prête à le conquérir et qui va s'en prendre plein la figure. Le mec, il a conquis la Corée. C'est l'un des acteurs les plus puissants du soft power coréen, qui est plus fort que le hard power coréen, faut le savoir. Et là, il arrive, il se dit, je vais conquérir l'Amérique.
C'est vrai que c'est quand même très drôle, quoi.
Et t'es là, mais c'est pas possible, je peux pas le prendre au sérieux, en fait.
Je dis pas que je le prends au sérieux, hein. C'est juste qu'il m'apparaît sympathique.
Ouais. Et il l'a été. Il l'a été.
Il l'a été, oui, c'est ça. Il l'a été. Mais en même temps, je suis le premier à me moquer de lui souvent.
Ah non, mais c'est un mème. C'est un mème. Alors,
ah, mais c'est
je
un,
te
c'est
l'accorde,
un mème,
il a
d'accord.
été sympathique. Je crois que c'est avant l'audition de Kendall, je crois, ou de Nexus, je sais plus. Il lui dit, ah, je suis super content d'être là, je suis grave de bonne humeur, j'ai bouffé de la pizza. Et voilà.
Oui, c'est vrai.
Et qu'est-ce que ça fait là?
En vrai, il est trop drôle. Et dans Loud, c'était ça. Sauf que t'avais Psy qui se foutait de sa gueule à côté H24. C'était incroyable.
Ça m'étonne pas.
Incroyable.
Ça m'étonne pas du tout.
Mais voilà, vraiment, moi il me fait beaucoup rire, JYP. Vraiment, trouvez-vous quelqu'un qui vous aime autant que JYP s'aime, quoi.
C'est vrai. Le prochain épisode est publié... le lundi, hein, c'est ça, il faut savoir qu'il y a deux updates par semaine, le lundi et le jeudi, c'est ça?
On va réunir les prochains deux épisodes, en fait, on fera un épisode, nous, par semaine, où justement, on va récapituler ensemble, Hélène, les deux épisodes de la semaine passée. Donc là, on vous a fait un épisode un petit peu déjà introductif, pour vous expliquer un peu le concept de l'émission. Les autres émissions, elles seront, je pense, beaucoup plus apéro, quoi.
Oui, puis plus courte aussi, le but est de réagir à chaud, parce que là, faut savoir qu'on enregistre littéralement l'émission l'après-midi où est sorti l'épisode. Oui, parce qu'on aime la K-pop, mais on va pas se lever à 3h du matin pour regarder l'émission et la tourner juste derrière.
Ouais, mais alors cette nuit, j'ai failli ne pas dormir pour regarder le premier épisode de A2K.
C'est parce que t'es passionné. C'est parce que,
je suis
rien.
Con.
C'est beau, mais moi à 3h, je dors.
Je suis con, surtout. Non, mais t'as bien fait. T'as eu raison.
C'est ça, parce que t'es en colère, Adrien.
Peut-être. Je suis en colère que t'aies du mal de monter YP.
En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour les épisodes prochains à partir du moment où la compétition va se corser un peu et qu'on va avoir Bah, les demoiselles qui vont devoir parfois s'affronter entre elles et, pour former finalement quelque chose. C'est toujours un truc que j'ai trouvé intéressant dans les survival, c'est que avant de se battre ensemble, les personnes se battent l'une contre l'autre.
Ouais, c'est vrai.
Et c'est très intéressant de voir, et c'est ce qui a donné parfois des moments un petit peu peut-être étranges dans les débuts des groupes. C'est que tu te retrouves face à des groupes qui, avant d'être unis envers et contre tout, se sont mis sur la tronche, en fait. Et c'est toujours assez intéressant, la dichotomie qui se met en place, parce qu'en fait, tu te retrouves face à des membres de groupe qui, au début, potentiellement, se détestaient.
C'est là où tu vois émerger les leaders, je trouve.
Ouais.
Ceux ou celles qui sont prises et qui savent réconforter les autres.
Oui, clairement. C'est dans cette adversité.
C'est ça. C'est là où tu te dis, ok, lui ou elle fera un très bon leader de groupe.
Mm.
Merci, Hélène, d'avoir participé à ce premier épisode de America to K-Pot.
Eh ben, avec grand plaisir, et j'ai très très hâte de voir ce que JYP nous prépare pour la suite des événements.
Ça va être très 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 cool. Sur ce, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter et sur... on a Instagram ou pas encore?
Pas encore, mais je vais m'y mettre.
D'accord. On vous souhaite une très bonne journée ou soirée. Suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bye, à très bientôt.
Bye, n'hésitez pas à partager l'épisode s'il vous a plu. Merci à toutes et à tous.
Incroyable, t'es trop forte.
Allez, je coupe le rec.